pasteur a dit un jour, les excuses, c'est fait pour s'en servir. Le même pasteur, quand il était plus jeune, sidérait ses parents quand il rentrait de classe avec un bulletin de notes catastrophique. Il arrivait toujours à trouver des excuses. Ses professeurs de l'époque l'appelaient « Monsieur l'avocat » parce que là aussi, il trouvait toujours des excuses. Il ne se démontait absolument jamais. « Monsieur l'avocat ». Il m'a dit un jour « Les excuses, c'était fait pour s'en servir ». Les excuses. Pour trouver l'origine des excuses, il faut simplement aller dans le livre des origines, qui est la Genèse, et nous trouvons pour la première fois l'homme et la femme qui présentent des excuses. Comme a dit quelqu'un un jour, des excuses moisies. Après la chute, après que la transgression de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden, Dieu s'est donc approché et leur a posé la question « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Au lieu de reconnaître sa faute, son péché, avec selon ces textes que nous avons lus tout à l'heure, l'homme et la femme, pour la première fois, se sont divisés, se sont accusés mutuellement. Pour la première fois, ils ne s'entendaient plus. Ils ne s'accordaient plus, ils ne se soutenaient plus. L'homme a répondu, cette excuse auquel il avait dû certainement réfléchir au moins 15 jours avant, « Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. » C'est-à-dire, sous-entendu, bien sûr, d'une manière sous-jacente, « C'est ta faute. Dieu, c'est ta faute. Tu ne m'aurais pas donné cette femme, il n'y aurait pas eu de problème. » Et la femme ne se démonte pas non plus. Elle avait dû réfléchir au moins 2 mois et répond, « Mais c'est le serpent, bien évidemment. Mais vous y aurez tous pensé, d'ailleurs, je suis sûr. » Ainsi, tout le monde avait des excuses pour tout. L'homme accuse sa femme, la femme accuse le serpent, et ils sont chassés du jardin d'Éden. Voilà l'origine des excuses. Et lorsque nous lisons dans le texte ces 3 personnes qui sont invitées au repas, au festin, par le Seigneur, l'un répond « J'ai acheté un champ. Il faut que j'aille le voir. » Parce que bien sûr, quand vous achetez un appartement, au moment où vous signez l'acte de vente, vous dites au notaire, « Maintenant, je vais aller voir l'appartement, parce que je ne sais pas du tout comment il est, finalement. » C'est très logique. Vous achetez un champ, et vous n'allez pas le voir. L'autre, il achète 5 paires de bœufs. Alors ça, pour cette excuse-là, je vous assure qu'il faut avoir vécu en Alsace-Lorraine, bien connaître les paysans là-bas, pour vous dire que c'est parfaitement invraisemblable. Parce qu'aujourd'hui, même si on n'achète pas 5 paires de bœufs, on achète du matériel agricole, et les 5 paires de bœufs à l'époque, croyez-moi, ils avaient certainement dû les essayer avant. Hein ? Pour peu que ce soit des bœufs qui marchaient sur 3 pattes ou qui ne marchaient pas du tout, vous imaginez bien que vous n'allez pas acheter à l'époque 5 paires de bœufs, vu le prix que ça coûtait, sans les essayer avant. Tout comme un paysan ne va pas acheter du matériel agricole sans le regarder, sans l'essayer, sans le tester. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ce sont des excuses parfaitement moisies. Voilà, ça n'a aucun sens. Et puis alors, le dernier, il est mignon. Je me suis marié, donc vous savez, j'ai pas le temps. Voilà. Parce que bien sûr, c'est bien connu, quand on se marie, on rentre dans un monastère pour fabriquer des camemberts et de la chartreuse. Hein, c'est-à-dire, on s'enferme et on ne voit plus personne, on ne sort plus, on ne fait plus rien. Ça ne tenait pas plus la route. Oui. Alors, je disais à quelqu'un cette semaine, j'ai eu l'occasion de prêcher un jour à Strasbourg, c'était l'époque de Noël. Alors Noël, dans l'Alsacien, je vous dis tout de suite, c'est très marqué, hein, ça je peux vous le dire, c'est très marqué, on aime beaucoup, il n'y a pas de problème, tout est là, tout est présent, le sapin, un grand sapin, les décorations et la crèche. Il ne faut pas oublier la crèche. Et j'ai osé dire, c'est bien, j'ai dit, il y avait le sapin qui était à côté, je dis, c'est bien, vous avez pensé à la crèche. J'ai dit, parce que vous savez la crèche, vous savez ce que c'est? C'est le symbole du refus de Dieu, du refus de l'homme de Dieu, du refus de l'humanité de Dieu et de Jésus. Parce que c'est ça en fait la crèche. Pourquoi il est allé naître dans une crèche, Jésus ? Parce que personne ne voulait de lui. Personne ne voulait de lui. Dans les hôtelleries, il n'y avait pas de place. On leur a dit, ah non, on est désolé, il n'y a pas de place. Vous savez ? Et si Airbnb avait existé à l'époque, on aurait dit, ah ben vous savez, excusez-moi, j'ai oublié de modifier mon calendrier, il n'a vraiment pas de place. Donc il est allé dans une étable. Et dans l'étable, on peut imaginer que la personne à qui appartenait l'étable l'a accueilli, l'a accepté. Accepté donc que Marie accouche de Jésus. Mais pas chez les autres. Vous savez, pour être hôtelier, à l'époque, il fallait quand même être plus ou moins aisé, quand même. Il fallait avoir de l'argent. Vous savez. Et c'est quand même ça, en fait. Les excuses, ça vient souvent que nous avons toujours autre chose à faire. Toujours. Que ce que Dieu nous demande. Que ce que Dieu nous demande. Nous avons toujours quelque chose à faire. Et si ce n'est pas 5 paires de bœufs, ce n'est pas un champ, c'est autre chose. Il y a toujours quelque chose dans notre vie qui prend la place de Dieu. Et qui fait que je n'ai pas de place pour Dieu, pas plus qu'il y avait de place pour Jésus dans les hôtelleries. Alors je leur ai dit, vous savez, parce qu'ils me regardaient quand même d'une drôle de manière, les Alsaciens, là, à Strasbourg. J'avais osé profaner la crèche, rendez-vous compte. Et je leur ai dit, vous savez, la crèche, vous pouvez continuer à faire, c'est gentil, c'est mignon. Mais rappelez-vous quand même le symbole que ça a. Rappelez-vous ce que ça veut dire. Il n'y avait pas de place pour Jésus chez eux. Alors, avec une crèche, d'accord, mais est-ce qu'on a de la place pour Dieu dans notre vie, dans notre cœur ce matin ? Est-ce qu'on a de la place ? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire qui fait qu'on remettra plus tard l'appel de Dieu ? On remettra plus tard, je dirais, d'entendre la parole de Dieu, d'entendre ce que Dieu veut nous dire. On est des fois très fiers, vous savez, de notre lignée. Moi, je suis une famille protestante. Et bien sûr, j'en suis content, j'en suis fier. Mais vous savez, si je suis blond aux yeux bleus, c'est parce que dans ma famille, on était blond aux yeux bleus. Ça c'est un héritage, ça se transmet. Mais la foi, par contre, elle ne se transmet pas, vous savez. On ne reçoit pas la foi en passant chez le notaire. Quand on reçoit l'héritage de ses parents ou de ses grands-parents. La foi, elle est personnelle. Dieu nous dit, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis, c'est un choix personnel. Dieu ne nous contraint pas, ne nous pousse pas. Vous êtes rentrés libres ici, n'est-ce pas ? Bon, les portes, elles sont fermées, mais rassurez-vous, elles vont se rouvrir tout à l'heure. Hein. On va vous laisser sortir. Vous n'êtes pas rentrés, je dirais, avec une mitraillette dans le dos. Vous êtes rentrés libres. Parce que Dieu nous laisse libres. Parce que l'essence de Dieu, c'est de laisser l'homme libre de son choix et de ses actes. Mais Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives. Alors je disais, on est des fois fiers d'avoir une lignée et on tombe comme ça des fois, parfois, dans une suffisance. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans le sud de la France, dans les Cévennes, mais que j'ai remarqué aussi, bien sûr, en Alsace-Lorraine. Et un jour, un pasteur qui parlait avec une dame qui expliquait qu'elle avait des générations de protestants dans la famille, dont le nom certainement inscrit au musée du désert. Il lui a dit, mais vous savez, ma chère madame, c'est très bien tout ce que vous me dites. Mais le fait d'être né dans un garage ne fera jamais de vous une voiture. Et je me souviens, quand on partageait un petit peu comme ça, entre église, mission, avoir été en Suisse allemande. Ah, ça rigole pas là-bas. Suisse allemande, donc, ils sont très gentils, très accueillants. Et un jour, on visitait un temple magnifique. Et on regardait sur les bancs, c'était des vieux bancs en bois, on regardait sur les bancs, écrits en gothique, des petites plaques d'émail avec le nom des gens. Donc j'essayais de le lire, parce que le gothique, c'est pas évident. Et voilà qu'un monsieur, très majordome anglais, nous regarde et nous dit en allemand, « Ce sont les noms de mes ancêtres. » Et je l'ai regardé avec un grand sourire et je lui ai répondu en allemand, Moi, je préfère avoir mon nom inscrit dans le livre de vie que sur un banc d'église. Après, bizarrement, on n'avait plus grand-chose à dire. Je ne cache pas que je crois que j'avais vraiment dit ce qu'il ne fallait pas. Mais vous savez, personnellement, il ne faut pas s'attacher à ce genre de choses. Posons-nous la question, est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Peut-être sur un banc d'église, peut-être, d'accord? Peut-être que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes oncles, tantes, tout ça, quelque part dans les Cévennes ou je ne sais pas où, ou dans un temple, on écrivait, vous savez, le nom des personnes, et ces personnes venaient s'installer à leur place. Il n'était pas question qu'on s'installe à la place. Alors, je peux vous dire une chose. Aller dans un temple en Suisse, en Allemagne, où vous avez le nom de la personne inscrite sur le banc, on vous demandera gentiment, mais fermement, d'aller voir ailleurs, d'aller vous installer ailleurs. Là, c'est ma place. C'est comme ça. Et nous voyons donc que nous sommes attachés à des choses futiles. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle et il veut que nous parvenions à la connaissance du salut. Nous avons lu ce texte dans Michée, que j'aime beaucoup, où Dieu nous dit « Quel Dieu est semblable à toi ?» Nous l'avons lu tout à l'heure, mais je le relis parce que c'est un texte important. « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la miséricorde. » Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore pour nous, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça c'est le pardon de Dieu, le véritable pardon de Dieu. Voyez. Alors dans cette hôtellerie où il n'y avait pas de place pour Jésus, ces gens qui devaient faire plein de choses matérielles, beaucoup plus importantes, que de répondre à l'appel du Seigneur et de venir à leur repas. Vous savez, le repas dans la Bible, c'est un signe de communion. C'est un signe de communion. Ces gens qui n'avaient pas le temps, qui avaient autre chose à faire et qui se sont poliment mais fermement excusés, au point d'irriter le maître et que le maître a dit quoi ? Allez le long des haies, cherchez les boiteux, les aveugles, ceux qui sont malades. Alors, il ne faut pas voir toujours les boiteux au sens physique du terme. Vous savez, quand la Bible parle, elle parle aussi par parabole. Vous savez, les boiteux dans la vie, ceux qui n'ont pas forcément réussi. Les aveugles, ceux qui ne voyaient rien du tout, qui ne comprenaient pas la parole de Dieu. Vous savez, tous ces gens, je dirais, qui sont fatigués, usés, malades, voyez, déçus de la vie, qui n'ont plus rien. Et Jésus disait, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de moi. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de Dieu. Ce sont les malades. Et ce sont ces gens-là, justement, que le serviteur va chercher le long des haies partout. Vous savez, c'est ce qu'on appelle communément l'évangélisation. C'est l'évangélisation telle qu'on la lit dans les actes des apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples ? Eh bien, ils ont annoncé la parole de Dieu. Annoncé la parole de Dieu pour que des gens entendent le message de Dieu, entendent la parole de Dieu, se convertissent à leur tour et qu'à leur tour, ils soient des témoins. Ça, c'est de l'évangélisation. Et j'ai participé très souvent à des missions d'évangélisation qui sont un petit peu comme nos cultes conférences, vous savez, avec des thèmes chaque jour, un thème particulier. Et comme ça, vous invitez des gens à venir écouter la parole de Dieu sur un thème particulier. Mais il faut avoir le temps. Et des fois, les gens, je les voyais, ils me disaient « Oh, je viendrai un soir ». Et des fois, je les revoyais et ils me disaient « Alors, c'est quand ?» Je dis « Mais non, c'est terminé maintenant ». Maintenant, vous pouvez venir le dimanche, hein, si vous voulez, bien sûr. Ne laissons pas passer l'appel de Dieu, ne laissons pas passer, je dirais, le message de Dieu, le message de l'Évangile. Prenons le temps pour Dieu. Laissons de côté nos petites affaires, laissons de côté ce qui peut-être nous encombre l'esprit, hein, ce qui nous empêche, je dirais, de nous poser, d'entendre, d'écouter et surtout de recevoir. Oui, Dieu nous appelle, il met devant nous la vie et la mort. Choisissons la vie ce matin pour que nous vivions. Dieu nous appelle et il dit dans l'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte. » C'est un verset que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs par un de ces versets que j'ai été touché un jour par la parole de Dieu. Il y a quand même quelques années, vous voyez. Et j'étais venu vraiment comme ça, vous savez. On m'avait invité. Je dis, vous savez, je suis protestant, hein, je connais. Ça, c'est toujours la réponse aussi. Oui, mais je connais, vous savez. Je connais ça depuis ma plus tendre enfance, vous savez, mais je connais tout. Vous savez, la Bible, je la connais. Un jour, quelqu'un m'a dit ça. Il m'a dit, oh, vous savez, la Bible, je la connais. Je lui ai dit, ah bon, vous connaissez 31 773 versets de la Bible. Mais je lui ai dit, vous avez de la chance, alors. Vous savez, cette suffisance comme ça. Oh, je connais, tout ça, vous savez, j'entends ça depuis ma plus tendre enfance. J'entends peut-être, mais est-ce que j'ai écouté ce que Dieu veut me dire, maintenant, à moi, personnellement, là, maintenant? Parce qu'il y a une différence entre, vous savez, entendre du bruit et écouter quelqu'un. Écouter quelqu'un, ça veut dire que je fais silence, je ne suis pas perturbé par la radio, la télévision qui marche, je ne suis pas en train de regarder mon téléphone et regarder mes messages ou d'en passer. Hein, parce que quand vous parlez avec quelqu'un comme ça, vous avez envie de vous arrêter. Hein. Franchement, je vous assure que c'est particulièrement désagréable quand vous parlez à quelqu'un et qu'il est en train de jouer avec son téléphone. Oui, d'accord. T'as compris ce que je t'ai dit? Ah non, pas du tout. Non. Tu peux recommencer, s'il te plaît? Oui, d'accord. Vous voyez, c'est comme ça avec Dieu. On entend, mais on n'écoute pas. Et on passe à côté du salut. Et je vous disais, donc, moi, la première fois que j'ai entendu le message de l'Évangile, bien que l'ayant entendu, mais Dieu m'a parlé personnellement. Et j'étais convaincu qu'il fallait que je lui donne ma vie, maintenant. Alors, vous savez, la verrière du temple ne s'est pas ouverte avec l'Alléluia de Handel, avec les anges et tout, ils sont descendus. Non, vous savez, personne n'a rien entendu. Moi, par contre, j'ai entendu. Oui. Et j'ai en mémoire une personne qui est pasteur, lui toujours la même d'ailleurs, celui qui était avocat là, quand il était jeune. Et il me dit, mon beau-père un jour était quelqu'un de un syndicaliste qui appartenait à un parti politique très, très dur, je ne nommerai pas. Et qui était quelqu'un de très violent, très méchant, très dur, et qui terrorisait les gens à son boulot et dans sa famille aussi, qui était capable de piquer des colères monstrueuses, et tout le monde le craignait. À son boulot, c'était quelque chose de terrible. Tout le monde le craignait, tout le monde filait droit. Il se mettait des fois à crier, à hurler, on racontait, parce que moi je ne l'ai pas connu comme ça. Et puis... Il parlait, sa femme et ses enfants donc, allaient au culte, hein, comme nous sommes réunis ici ce matin. Et puis quand ils sont rentrés, donc à midi, lui était assis dans un fauteuil, tout calme. Ça changeait apparemment, parce que sa femme me disait, ça avait changé. Et puis il lui dit, ça va? Oui, ça va. Il lui dit, j'ai fait le ménage. Donc sa femme regarde et dit, t'as fait le ménage? Ah bon? Oui. Il dit, oui, j'ai fait le ménage là, dans mon cœur. En fait, il s'était levé, il était allé dans la cuisine, il s'était fait un café et il était tombé sur le calendrier, vous savez, connaissez tous ces calendriers avec le verset de la Bible et l'explication derrière. Je pense que certains connaissent. Et il avait lu le verset du calendrier du jour. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui, il sera en communion avec moi. Il a été touché par ce texte. Et je lui dis, quand je l'avais vu après, je lui dis, ben tu vois, c'est un des textes, moi, qui m'a touché lorsque je l'ai entendu. Et en fait, tout seul, il a fait la paix avec Dieu, il a donné son cœur à Dieu, et c'est un homme qui, dans sa famille, dans son travail, a fondamentalement, radicalement changé, complètement changé. Parce que Dieu nous dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles. Il fait de moi un homme nouveau, il fait de moi une femme nouvelle. C'est-à-dire que ce que j'étais, Dieu me transforme, Dieu oublie mes péchés, Dieu me pardonne, il jette mes péchés au fond de la mer. Alors, ce matin, après tous les textes que nous avons lus, il faut se dire une chose, Dieu nous appelle tous particulièrement, individuellement, personnellement. Et ce matin, répondons à l'appel de Dieu. Répondons à l'appel de Dieu, ouvrons notre cœur et ne disons pas « je verrai demain, je verrai la semaine prochaine ». Non, Dieu nous parle peut-être à nous personnellement ce matin. Eh bien, répondons à son appel. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu nous accorde sa grâce encore aujourd'hui, encore ce matin. Il l'accorde pour tout le monde. Et cette grâce, elle est pour tous, elle est pour toutes. Eh bien, acceptons ce matin la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Acceptons cette grâce dans notre cœur. Acceptons Jésus-Christ comme notre salut. Amen.